Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série HTT Stories, le podcast qui retrace le parcours de mes invités, anciens lauréats du Handitech Trophy, depuis le concours jusqu'à aujourd'hui. Je suis Marion, chef de projet communication et événementiel chez Job in Live, cabinet de recrutement et agence de communication RH à l'origine du Handitech Trophy. Aujourd'hui, je reçois Estelle Ast, présidente directrice générale de WatchHelp, une application qui favorise l'autonomie des personnes atteintes de troubles cognitifs. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Estelle.
Bonjour.
Alors Estelle, tu es présidente directrice générale de WatchHelp, une application qui favorise l'autonomie des personnes atteintes de troubles cognitifs. Tu as participé au Handitech Trophy en 2018 et tu as remporté le trophée de la catégorie santé. Une belle récompense donc pour aider au développement de ton projet. Est-ce que pour commencer, tu peux nous en dire un peu plus sur WatchHelp et nous présenter cette application ?
Oui, bien sûr. Donc, WatchHelp est né au départ pour mon fils, hein, puisque je suis donc maman d'Alan, qui a aujourd'hui 15 ans, mais qui a été diagnostiqué autiste à l'âge de 2 ans. En fait, vers l'âge de 10 ans, où il commençait un peu à entrer dans l'adolescence, mais surtout à l'époque où il commençait à prendre conscience, on va dire, de sa différence. Cette époque, en fait, il savait faire pas mal de choses, mais il n'y avait rien de spontané quasiment chez lui. C'est-à-dire qu'il fallait que je sois toujours derrière lui. Et c'est vrai qu'Alan, clairement, il ne supportait plus. Il en avait marre que je sois toujours derrière, sur son dos. Moi, ça m'épuisait. Lui, ça l'exaspérait. Je me suis dit, il faudrait que je trouve un système, quelque chose qui l'aide à réaliser toutes ses tâches au quotidien sans que je sois constamment derrière lui. Donc, en fait, j'ai commencé comme ça à réfléchir. Et puis, alors, je me suis rappelé que quand il était petit, on utilisait donc, ce qu'on appelle des séquentiels. Un séquentiel, c'est une sorte de frise chronologique composée de plusieurs images, de plusieurs pictogrammes qui décrit chaque étapes, les étapes par lesquelles l'enfant doit passer pour atteindre un but. Et du coup, voilà, j'ai vraiment focalisé là-dessus, sur un outil qui le guide au quotidien et qui puisse avoir toujours sur lui. Et c'est comme ça, d'un seul coup, un jour, que j'ai eu l'idée de la montre connectée. Je me suis dit, en fait, la montre connectée, ça serait vraiment l'outil idéal. Et j'étais en fait convaincue que ce type d'application existait, parce qu'au final, le concept était quand même relativement simple. Il s'agissait juste d'une appli où je pouvais créer des séquentiels et les programmer dans un planning. Donc, dès que j'ai reçu la montre connectée, je me suis mise à chercher l'appli. Et j'en ai testé des dizaines. Et en fait, j'ai jamais rien trouver qui correspond à... Donc, comme je ne l'ai pas trouvé, je me suis dit, comme elle n'existe pas, je vais la faire moi-même, tout simplement. Donc, j'ai commencé à mettre noir sur blanc toutes mes idées, tout ce que j'avais dans la tête. Et donc, j'ai rédigé une sorte de cahier des charges que j'ai posté sur un site qui s'appelle codeur.com, qui regroupe des milliers de développeurs. J'ai reçu beaucoup de messages en me disant, en gros, oh là là, mais c'est génial, enfin, un projet humain. En tout cas, tout le monde était très touché, donc ça m'a fait plaisir. Donc, j'ai reçu beaucoup de devis. Et puis, au final, je me suis rapprochée d'une agence et avec qui, vraiment, j'ai eu un excellent contact. Et voilà, et donc, j'ai décidé de travailler avec eux. Donc, j'ai lancé une campagne de crowdfunding. Et en 2 mois, j'ai remporté ma campagne. J'avais pas mal communiqué sur les réseaux sociaux. Ça a vraiment bien fonctionné. Donc, j'étais super contente. En fait, beaucoup de familles ont participé parce qu'elles se sont dit elles-mêmes que ça pourrait beaucoup aider leurs proches ou leur enfant. En fait, c'est tout à fait ce que j'ai réalisé quand j'ai rédigé le cahier des charges de mon application. En fait, je me suis dit, mais en fait, cette application, elle ne va pas servir qu'aux personnes autistes. Elle peut aider toutes les personnes atteintes de troubles cognitifs. Donc, que ce soit un enfant TDAH, une personne âgée qui vient de développer la maladie d'Alzheimer, une personne qui a fait un traumatisme crânien, un AVC, etc. Enfin, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait, le panel était vraiment très, très large. Et ça, d'avoir réalisé ça, ça a joué dans la façon dont on a développé l'application, parce que je me suis dit, du coup, il faut quand même une application qui soit entièrement personnalisable, qui soit vraiment souple d'utilisation, parce qu'il faut qu'elle s'adapte aussi à chaque pathologie, à chaque syndrome plateformes, etc. Il est possible, par exemple, voilà, d'envoyer des consignes uniquement sous forme d'image si la personne ne sait pas lire, ou uniquement sous forme de texte, ou les deux si la personne est dans l'apprentissage de la lecture. On va rajouter aussi bientôt la fonction vocale pour les personnes malvoyantes, etc.
Donc, dans l'application, il y a les séquentiels, du coup, les actions à réaliser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fonctionnalité?
Alors, il y a aussi la fonction mémo. Les mémos peuvent servir à pas mal de choses, mais déjà, on va dire que la fonction première, c'est ce qu'on appelle des solutions à portée de main. C'est-à-dire qu'on va demander à l'accompagnant, que ce soit le parent ou le professionnel, d'anticiper toutes les situations compliquées ou déstabilisantes dans lesquelles la personne pourrait se retrouver et de lui apporter une solution qu'elle puisse consulter directement sur sa montre si elle se retrouve justement dans cette situation. Donc, concrètement, on va, par exemple, lui créer le mémo si je loupe mon bus, si je perds ma carte bleue, si je suis angoissée, si je perds mes clés, enfin, les solutions sont infinies, mais l'idée c'est voilà, je suis dans une situation compliquée, je ne sais pas quoi faire, je vais aller chercher la solution dans ma montre. Un mémo, ça se présente comme un séquentiel, c'est-à-dire que c'est une succession de tâches à réaliser pour justement arriver à la solution pour se sortir de cette situation. Mais à côté de ça, ça peut être une simple liste de courses aussi.
Il y a des alertes aussi, j'ai vu des alertes que l'aidant ou le parent peut recevoir.
Oui, c'est ça. Alors en fait, quand on crée un séquentiel, on a la possibilité de vérifier si telle ou telle tâche a bien été réalisée. Une fois que la consigne est arrivée, on lui demande si elle a bien réalisé l'action. Et la personne n'a plus qu'à cliquer sur la touche oui ou non directement sur sa montre. Si elle clique une fois sur non, la consigne revient, comme si on lui répétait. Si elle clique à nouveau sur non, dans ces cas-là, l'accompagnant est immédiatement alerté, permet à l'aidant de savoir que la personne est en difficulté et qu'elle a besoin d'aide.
Il y a trois applications, donc il y a l'application Compagnon, Assistant et Compagnon Phone.
Oui.
Compagnon Phone, c'est si on n'a pas de montre, c'est ça ?
C'est ça, c'est si on n'a pas de montre ou si on ne veut pas utiliser de montre, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent utiliser uniquement leur téléphone. Il y a des personnes hyposensibles qui ne vont pas supporter le contact de la montre au poignet, etc. Donc, du coup, on a rendu la version également disponible sur smartphone. Ouais.
WatchHelp aujourd'hui, c'est combien de personnes en fait derrière ? Parce qu'à l'époque, tu étais toute seule. J'imagine que tu as dû t'entourer de plusieurs personnes pour mener à bien le projet.
Alors aujourd'hui, on est 6 associés. Dans l'équipe, en fait, il y a bien sûr les développeurs, deux développeurs donc, qui sont sur le projet depuis le tout début. J'ai aussi une associée qui est plus spécialisée dans la communication, qui est sur Paris, une personne qui est plus spécialisée sur les réseaux sociaux et un designer aussi. Vraiment une bonne équipe avec moi, ouais.
Du coup, pour revenir sur ta participation en Detect Trophy, donc c'était en 2018. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Est-ce que c'était il y a du coup 3 ans maintenant ? Je pense que tu t'en souviens quand même pas mal, si tu peux nous en dire 2 mots.
Oui, bien sûr. Participer au concours en Detect Trophy a été particulièrement intéressant pour nous, dans le sens où l'objectif de la Handitech, ça consiste notamment à accélérer la promotion et l'utilisation des technologies inclusives. Donc ça correspondait bien sûr tout à fait à l'application que l'on développe et que l'on commercialise. Suite à notre inscription, on a été ravis d'apprendre qu'on faisait partie des finalistes quelques temps après. On a été conviés à la cérémonie de remise des prix au siège de BPI France à Paris. Et voilà, et en fait, dès que la cérémonie a débuté, bien WatchHelp a été cité en premier en tant que lauréat dans la catégorie santé. Donc franchement, on était super, super fiers et heureux de remporter ce prix, grâce auquel, en fait, on a bénéficié d'un accompagnement au développement et RSE par BPI France. On a aussi bénéficié d'une interview dans le Figaro, un article d'une page dans le Figaro, et une adhésion et le label de la Handitech. Après la cérémonie, en fait, il y avait En fait, on était tous invités à prendre un verre. Chacun avait un stand aussi qui permettait de présenter de manière un peu plus détaillée, plus en privé, son concept, son produit, etc. Et ça, c'est vrai que c'était vraiment intéressant parce que ça nous a permis déjà d'échanger entre lauréats, entre participants, etc. Et puis, toutes les personnes qui étaient dans la salle pouvaient venir à notre rencontre, nous poser des questions, échanger, etc. C'était vraiment intéressant. Ouais.
Et en 2018, quand tu as participé au Handitech Trophy, à quel stade était ton projet? Tu avais besoin de quoi pour le mener à bien?
Alors, à cette époque, on était encore sur la V1. Et on était, alors 2018, en fait, on commençait à avoir comme projet de travailler sur une deuxième version. En plus, on voulait apporter de nouvelles fonctions parce que les familles nous réclamaient souvent, ça c'était vraiment une demande récurrente, de rajouter tout l'aspect sécurité. C'est-à-dire que comme c'est des personnes atteintes de troubles cognitifs qui ont souvent tendance à se perdre ou à fuguer, beaucoup nous demandaient de pouvoir géolocaliser leurs proches. Du coup, c'est ce qu'on a fait. On a déployé cette nouvelle version en août dernier. En fait, on a totalement revu le design, on a totalement revu le flow, tout le flow de l'application pour qu'elle soit encore plus intuitive. On a également rajouté toute une banque d'images, toute la banque d'images d'Anne-Marie Legout, il a les pictogrammes.com. Et donc, non seulement, en fait, on peut acheter ces pictos en ligne dans l'application, mais il y a également des séquenciels qui sont déjà créés. L'idée, c'était vraiment de faire gagner un maximum de temps aux familles.
Et on peut télécharger aussi nos propres images.
Bien sûr, oui, tout à fait, c'est entièrement personnalisable. Soit on utilise ces fameux pictos, soit on peut prendre n'importe quelle photo dans sa galerie, soit on peut prendre une photo sur le moment avec l'appareil photo du smartphone. C'est totalement personnalisable.
Ok, donc on a parlé du début, de l'origine du projet, on a parlé de 2018, on a parlé de l'évolution depuis 2018 et du coup maintenant, de quoi vous avez besoin? Quelles sont les prochaines étapes pour WatchHelp?
Alors, les prochaines étapes, étant donné que l'application maintenant est totalement terminée, opérationnelle et je dirais particulièrement performante, hein, d'ailleurs, je salue à nouveau au passage les développeurs, mes associés. Donc, en fait, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de communiquer, de communiquer, hein, c'est de la faire connaître. Elle était pour mon fils au départ, mais elle peut aider tellement de monde. Et alors, autant, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on s'adressait essentiellement aux particuliers. Une cible idéale sont vraiment les professionnels de santé. On s'est rendu compte que ça fonctionnait vraiment particulièrement bien, notamment avec les ergothérapeutes. Parce qu'une fois que le professionnel de santé a pris l'outil en main, il peut vraiment accompagner la famille dans sa mise en place. Mais du côté pour les familles, on a beaucoup travaillé sur des outils qu'on est en train de mettre en ligne sur le site et sur notre chaîne YouTube, comme par exemple des tutoriels vidéo. On a fait beaucoup de tutoriels. L'idée, c'est vraiment en fait de leur mettre à disposition un maximum de renseignements, d'outils pour qu'ils puissent être autonomes, qu'ils puissent prendre l'application en main.
En tout cas, c'est super, super beau projet. Je pense qu'on a pu aborder pas mal de points pour aujourd'hui. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter ou est-ce que pour conclure, tu aurais un petit mot d'encouragement pour la génération 2021 du Handitech Trophy?
Je dirais, pour conclure, oui, j'aurais deux mots à dire sur les deux.
T'en prie, vas-y.
En fait, pour conclure, on va dire sur WatchHelp, je dirais que le but ultime, c'est que la personne n'ait même plus besoin de cette montre, de cette application. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans ce concept, c'est qu'elle fonctionne vraiment comme une méthode d'entraînement cérébral. C'est-à-dire qu'à force de recevoir tous les jours les mêmes consignes dans tel ou tel environnement, en fait, on se rend compte que beaucoup de personnes finissent par faire les choses spontanément d'elles-mêmes. Le meilleur exemple que j'ai, c'est mon fils Alan, hein, qu'il a utilisé pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, aujourd'hui, Alan n'en a plus besoin. Tout est acquis, tout est devenu totalement spontané. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, quelque chose de très important. J'encourage vivement à participer aux prochaines Handitech Trophy, parce que, comme je le soulignais tout à l'heure, c'est vraiment un excellent moyen moyen de mettre son projet en avant, de se faire connaître, d'échanger avec une multitude de professionnels. Voilà, je pense que c'est important. Et puis pour faire connaître son produit, pour avoir la reconnaissance aussi de ce qu'on fait et du mal qu'on se donne. C'est important.
En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, moi je vous dis restez connectés puisque la date d'ouverture de l'appel à projet sera annoncée prochainement. Je n'en dis pas plus. Toi, Estelle, je te remercie, vraiment un grand merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci aussi pour ce beau projet qui œuvre en faveur de l'inclusion. Et à bientôt.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi aussi. À bientôt.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner à nos réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode HTT Stories.